Vous écoutez RFI, la radio du monde, bienvenue, il est 4h à Paris, 3h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une de l'actualité, Bachar al-Assad sort du silence, l'ex-président syrien évacué en Russie qualifie les nouveaux dirigeants du pays de terroristes. Mayotte dévastée après le passage du cyclone Chido, Emmanuel Macron sera sur place dans quelques jours. Et la particularité de ce cyclone, vous l'entendrez, c'est qu'il a frappé directement l'archipel. Et puis en Géorgie, les manifestants pro-Europe sont toujours dans les rues. Plus de 400 personnes ont été arrêtées ces 12 derniers jours. La majorité a affirmé avoir subi des violences policières, vous l'entendrez. Bachar al-Assad sort du silence. Mon départ de Syrie n'était pas planifié. Ce sont les mots de l'ex-président syrien, tombé il y a plus d'une semaine après la prise de Damas par une coalition rebelle. Une déclaration dans un communiqué publié sur Telegram, écrit vraisemblablement depuis Moscou, où il a fui. Théo Renaudon, dans cette prise de parole, il dément avoir abandonné le pays avant l'effondrement de son régime.
Il laisse entendre qu'il aurait voulu s'exprimer avant, mais que les coupures de communication l'en ont empêché. Bachar al-Assad fait dans ce communiqué le récit du samedi 7 et dimanche 8 décembre. Les rebelles islamistes assiègent alors Damas. Bachar al-Assad, lui, affirme qu'il est resté dans la capitale syrienne jusqu'au dimanche matin avant d'être exfiltré vers Latakia, là où se situe une importante base russe en Syrie. De cette base, il assure qu'il a voulu superviser les opérations de combat, mais trop tard, à ce moment-là, son régime est déjà tombé. Selon son récit, à son arrivée, plus d'ordre à donner, ses soldats ont fui et la base militaire russe dans laquelle il dit s'être réfugié est ciblée par des drones. Acculé, ce n'est qu'à ce moment-là, le dimanche soir, qu'il est évacué direction Moscou. Aujourd'hui, Bachar al-Assad dit que l'État syrien est tombé aux mains, je cite, de terroristes. Il écrit néanmoins être rempli d'espoir que la Syrie sera de nouveau libre et indépendante un jour. En attendant, il promet de publier un compte-rendu détaillé des événements lorsque, je cite, l'occasion le permettra, sans plus de précision.
Pendant ce temps, les contacts s'établissent peu à peu avec le gouvernement de transition syrien. L'Union européenne a annoncé l'envoi d'un représentant. Une délégation française et anglaise est aussi attendue. À Mayotte, le cyclone Chido a été le plus destructeur depuis 90 ans. Officiellement, 21 personnes sont décédées, mais les autorités redoutent plusieurs centaines de morts, peut-être des milliers. Ce lundi, 25 premiers patients ont été évacués vers La Réunion. Et la particularité de ce cyclone, c'est qu'il a frappé directement le petit archipel. Écoutez les explications de François Bonardo, responsable du service de prévision de Météo France pour l'océan Indien.
C'est un système qui finalement a réussi à transiter vers le canal du Mozambique sans passer par Madagascar. En général, les systèmes qui viennent de l'Est ou de l'océan Indien, ils heurtent Madagascar avant de ressortir du côté canal. Et lorsqu'ils transitent sur les terres de Madagascar, ils ont tendance à s'atténuer et à perdre en intensité, à se déstructurer. Là, ce qui a favorisé cette trajectoire d'abord très zonale, donc d'Est en Ouest, sans descendre vers le Sud pour lui permettre de passer au Nord de Madagascar, c'est les hautes pressions dans les subtropiques. Ces trajectoires zonales sont favorisées par une situation climatique qui n'est pas forcément à mettre en lien avec quelconque changement climatique, mais lorsqu'on est dans une situation comme cette année, donc c'est un épisode faiblement de type La Nina, donc des eaux plutôt fraîches sur le Pacifique, ça module un peu les grandes circulations d'air à l'échelle de la planète, hein, mais sur l'océan Indien, ça a tendance à favoriser le caractère zonal des trajectoires de cyclones.
Des propos recueillis par Pauline Glaise. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il se rendra à Mayotte dans les prochains jours et qu'il y décrétera un deuil national. La situation à Mayotte, première crise pour François Bayrou. Pendant ce temps, le temps presse pour la formation d'un nouveau gouvernement. Le nouveau Premier ministre a terminé une première série de consultations ce lundi. Ce mardi, il continue de recevoir les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale par leur ordre d'importance. La France insoumise a décliné l'invitation. Le nouveau Premier ministre était à Pau ce lundi pour présider le conseil municipal de la ville car il souhaite conserver son mandat de maire, mais ça ne plaît pas à l'opposition. Une décision indigne et irrespectueuse alors que l'archipel de Mayotte traverse l'une des pires tragédies, a notamment dénoncé sur X le député socialiste Arthur Delaporte. RFI 7h04 à Tbilissi, où un sapin de Noël géant règne devant le Parlement. Mais l'ambiance n'est pas à la fête, car tout autour, ce sont des manifestants. 19e jour de mobilisation contre des élections législatives considérées truquées par les manifestants pro-Europe. Le parti au pouvoir a nommé Mikhaïl Kavelachvili comme président, un ex-footballeur d'extrême droite pro-russe. Les États-Unis très préoccupés par l'état de la démocratie géorgienne, déclaration du porte-parole du département d'État Matthew Miller. Des multiples cas de violences policières contre des manifestants et des journalistes ont été documentés par des ONG et l'opposition. Plus de 400 personnes ont été arrêtées ces 12 derniers jours. La majorité a affirmé avoir subi des violences policières. Notre envoyé spécial à Tbilissi, Julien Chavanne, a pu en rencontrer.
Sandro Metrevelli a vécu une nuit de cauchemar le 6 décembre dernier. Cet étudiant en cardiologie quitte la manifestation devant le Parlement, mais des policiers anti-émeutes l'arrêtent.
Ils m'ont emmené dans un coin de la place et ils ont commencé à me taper. Ils me donnaient des coups de botte. Ça a duré plusieurs minutes. Ils m'ont ensuite jeté dans un minibus où ils m'ont menotté.
Sandro est finalement relâché puis condamné à une amende de près de 800 euros. Ruti Bokolishvili, un entrepreneur de 31 ans, a connu la même histoire, une arrestation arbitraire et un tabassage en règle par les policiers.
Il nous disait « Pourquoi vous manifestez? Vous jetez des pierres sur nos gars? Vous n'êtes pas des patriotes ?» Le message principal, c'était « Vous voulez cette Europe dépravée, cette Europe d'homosexuels ?»
Ruti a déjà repris le chemin des manifestations. Sandro, lui, doit encore rester au calme pour soigner ses blessures.
J'ai du mal à regarder les membres de ma famille qui s'inquiètent dès que je sors de chez moi. Ils ont peur que je me fasse tabasser dans la rue par les titouchki.
Les titouchki, des civils payés par le gouvernement pour attaquer les manifestants jusque chez eux, faire peur aux protestataires pour les décourager de manifester. La répression n'a pour l'instant pas brisé la contestation. Julien Chavanne, Tbilissi, RFI.
C'est un événement rare en Allemagne. Olaf Scholz a perdu un vote de confiance au Bundestag, ce qui ouvre la voie à des élections fédérales anticipées en février. Après la rupture de sa coalition début novembre, le chancelier Scholz ne dispose plus de majorité. Correspondance à Berlin de Pascal Thibault.
Un sabotage de la part du Parti libéral, son président Christian Lindner, ministre des Finances, jusqu'à son limogeage par Olaf Scholz début novembre, et qui écoutait le discours du chancelier comme simple député, s'est vu reprocher de manquer de maturité morale. La campagne électorale est clairement ouverte. Olaf Scholz s'est d'ailleurs adressé depuis le Parlement directement aux électeurs.
Je sais que la confiance dans notre coalition a souffert ces dernières années. Les disputes nombreuses entre nous ont été contre-productives. Mais critiquer en permanence, se plaindre ou abandonner, ça n'a jamais amélioré les choses.
Le chancelier a plaidé pour les investissements, pour moderniser l'Allemagne et pour la défense des réformes sociales. Son challenger, le favori des sondages, le président du Parti chrétien-démocrate, Friedrich Merz, a dressé un bilan au vitriol de l'action d'Olaf Scholz et de son gouvernement.
Avec vous, ce pays est confronté à l'une des pires crises de l'après-guerre. Monsieur le chancelier, vous avez eu votre chance, vous ne l'avez pas saisie, vous ne méritez pas la confiance.
Olaf Scholz n'a obtenu que les voix du groupe parlementaire social-démocrate et a clairement, comme prévu, perdu la question de confiance. Il s'est rendu immédiatement à la présidence de la République. Le chef de l'État, Frank-Walter Steinmeier, doit prendre la décision de dissoudre le Bundestag. Des élections anticipées sont prévues le 23 février. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Au Canada, la vice-première ministre démissionne. Chrystia Freeland n'était pas d'accord avec le premier ministre Justin Trudeau. En cause, les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur tous les produits canadiens. Une décision lourde de conséquences car le Canada a pour premier partenaire économique les États-Unis, où partent 75% de ses exportations. La nouvelle administration américaine poursuit une politique de nationalisme économique agressif, ce sont ses mots dans sa lettre de démission publiée sur X. Celle qui était également ministre des Finances a longtemps fait partie de la garde rapprochée de Justin Trudeau. Et puis avant de terminer ce journal, quelques mots de football. Le nom du joueur africain de l'année est tombé. Ademola Lookman succède à son compatriote Victor Osimhen. Le titre était disputé entre Achraf Hakimi ou encore Serhou Guirassy, mais il faut dire que l'attaquant de l'Atalanta Bergame en Italie a connu une année exceptionnelle avec une victoire en Europa League et une finale en Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.